Session d'initiation à la théologie par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, 5 octobre 1989, le Christ. Dernière conférence.
J'ai essayé ce matin de vous montrer la signification, autant qu'on peut le dire, dans la foi. La signification de ce mystère de la croix achève toute la vie du Verbe incarné depuis l'Annonciation à la croix. Et la croix est pour Marie une nouvelle Annonciation. Marie vit le mystère du Christ crucifié dans sa foi, son espérance et son amour. L'alliance de Dieu avec les hommes trouve son sommet à la croix. C'est-à-dire cette alliance qui, depuis le prophète Osée, au Cantique des Cantiques, ce petit livre, si ça vous tombe sous la main, du Père Feuillet, un excellent exégète d'Osée au Cantique des Cantiques. Le Père Feuillet souligne ce qu'il y a de plus secret, de plus profond, de plus intime dans l'alliance avec les prophètes, pour montrer que c'est une alliance d'époux et d'époux. L'Épître aux Éphésiens le reprend avec une très grande force. Cette fameuse Épître, vous savez, qui est toujours très, très, très belle, qui était la grande Épître. Avant, il n'y en avait qu'une pour la liturgie du mariage. On montre comment l'épouse doit être soumise à son époux. C'était toujours très délicat à prêcher là-dessus, mais il fallait quand même prêcher là-dessus, puisque c'était l'Écriture. C'est un problème très important de bien comprendre comment saint Paul montre sous la lumière ce mystère est grand. Et ce mystère est grand, c'est l'alliance du Christ avec l'Église comme époux et épouse. Et le mariage, par le point de vue du sacrement, est à l'ombre de ce grand mystère. Et c'est vrai que c'est le sacrement de mariage qui, symboliquement, est d'un symbolisme divin, et donc d'une manière efficace, va montrer ce mystère de l'époux et de l'épouse. Et ce mystère de l'époux et de l'épouse, d'oser au Cantique des Cantiques. Faut lire de temps en temps le Cantique des Cantiques. Pas comme à commenter, on peut le faire qu'au Carmélite. Saint Bernard avait cette sainte audace qu'ont les saints de le commenter au chapitre. J'ai toujours hésité de me dire qu'au fond on devrait commencer au chapitre le soir, le chapitre des religieux c'est le soir, c'est la petite homélie familiale du soir. Et Saint Bernard prenait le Cantique des Cantiques et le commentait à la manière de Saint Bernard. C'était une façon toute mystique et toute divine. Le Cantique des Cantiques, c'est ce qui se passe à la croix. C'est la grande vision prophétique du mystère du Christ et de Marie. Tu es un époux de sang. Ça a été dit dans l'Ancien Testament au moment de la circoncision. Et tout ça est ordonné à la croix. Et c'est vrai, les épousailles, les noces de l'agneau se réalisent dans le sang de la croix. Et le mystère de la croix est un mystère de noce, au plan divin, au plan mystique. Puisque c'est le don que Jésus fait de tout lui-même au Père pour le glorifier et à Marie pour la sauver. Et par Marie, à Jean et à toute l'Église. C'est très grand, ça. Et je crois que la seule manière vraie de lire le Cantique des Cantiques, c'est de le lire dans la lumière de la croix. Alors c'est très beau. Tout chrétien doit le faire pour comprendre un peu ce que c'est que le mystère de l'Église. Vous savez bien, selon saint Augustin, l'Église naît à la croix. Les sacrements naissent à la croix de la blessure du cœur du Christ. Mais c'est très beau si on comprend que la blessure du cœur du Christ est une blessure de surabondance. Le soldat qui a lancé sa lance dans le côté et qui atteint le cœur de Jésus n'a pas fait sans service commandé. On avait donné l'ordre de rompre les jambes des crucifiés s'ils n'étaient pas morts, pour hâter leur mort et permettre la descente de croix avant le grand sabbat. On ne pouvait pas laisser des corps crucifiés sur le poids de la croix pour le jour du sabbat. Ça aurait été anti-liturgique. Non, c'était ça, non. Avant tout, qui était la grande inquiétude des grands prêtres, que ce soit propre. Le jour du sabbat, il faut que tout soit propre. Jésus a été crucifié avec deux condamnés à mort, deux brigands, un bon et un mauvais, selon la tradition. Le bon larron et le mauvais larron. Mais c'était quand même de larron. C'était la compagnie de Jésus à la croix. Faut pas l'oublier. C'était là, tous les deux. Et l'un a regardé Jésus avec amour. Et l'autre a continué de pester. Contre tous les hommes. Contre la justice. Mais ne voyez pas qu'en Jésus, la justice était absorbée par la miséricorde. Cette parole que le Saint-Père actuel aime tellement de rappeler, je ne sais pas combien de fois il l'a dit, mais il l'a dit pas mal de fois. La miséricorde et la justice se sont embrassées à la croix. C'est-à-dire que la justice est absorbée par la miséricorde. Elle demeure. C'est bien évident. Mais elle est transformée du dedans par la miséricorde. Eh bien, c'est à la croix, à travers le coup de lance, donné gratuitement, que les sacrements nous sont donnés. Vous voyez, la gratuité des sacrements. C'est très très important de voir la gratuité des sacrements. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas une surloi. Ça descend directement du cœur blessé de l'agneau. Chaque fois que vous recevez le sacrement, il faudrait que vous ayez, dans votre vision de foi contemplative, la blessure du cœur du Christ. Le sacrement de réconciliation, c'est le sang du Christ, se baigner dans le sang du Christ, comme dit Catherine de Sienne. Le sacrement du baptême, se baigner dans l'eau et le sang du Christ, de son cœur. Le sacrement de mariage, c'est cette alliance qui se réalise à la croix, qui veut sanctifier radicalement l'amour humain, pour que l'amour humain devienne signe de l'amour divin. Et deviennent instruments de l'amour divin. ces grands mystères de la compassion. Les épousailles divines, où Jésus saisit le cœur de Marie dans une unité d'amour. Et c'est à ce moment-là où Marie connaît la plus grande intimité avec le cœur du Christ. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit cette dernière parole. Femme, voilà ton fils. Et à Jean, voilà ta mère. Voyez, la seconde alliance, la première alliance, c'est dans le corps du Christ, l'Eucharistie. La seconde alliance, c'est dans le cœur de Marie, lié au cœur de Jésus. Marie est le trésor du cœur du Christ. C'est la créature qu'elle a le plus aimée. C'est la créature qui a reçu le plus la grâce du Christ, le sang de Jésus. Et c'est elle que Jésus donne à Jean et à travers Jean à chacun d'entre nous. Il faut beaucoup aimer de regarder cette image, cette icône vivante à la croix, cette icône de la très sainte Trinité. Jésus, Marie, Jean. C'est très étonnant de voir ça. Ça ne peut être compris que dans la lumière de la très sainte Trinité. Et c'est là où la très sainte Trinité nous est pleinement révélée. Jésus l'a promis d'envoyer le Paraclet. Il l'a promis après l'institution de l'Eucharistie. Et dans Saint Jean, c'est le discours prophétique, l'enseignement prophétique le plus étonnant de toute la vie du Christ. Chapitres 14, 15 et 16, c'est trois grands chapitres où Jésus promet d'envoyer le Paraclet. Vous savez que c'est intraduisible, Paraclet. Je ne sais pas si Jésus a pris le mot paraclet, s'il l'a dit en hébreu, en araméen. Faudrait-il que ça nous ait transmis en hébreu? Paraclet. Dieu qui entend le cri de l'enfant dans le désert. Je crois que c'est ça le paraclet. C'est Dieu à l'écoute de l'homme, une écoute d'amour. C'est Dieu qui vient vers nous et qui écoute les misères de notre cœur et qui les reçoit. Et c'est pour ça qu'on traduira le défenseur, l'avocat, le consolateur. Vous voyez, quand on met 36 mots pour traduire quelque chose, ça profond, c'est pas le traduire. C'est bien évident, là, vous voyez tous ces mots. Et c'est pour ça que c'est presque mieux, c'est de pas le traduire. Et puis, de gloser autour. Je crois que c'est Dieu, dans son ultime moment de miséricorde, qui écoute le cri de l'enfant, le paraclet. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous est donné par Jésus, qui nous est donné par le Père, le don commun du Père et du Fils. Et donc si c'est le don commun du Père et du Fils, c'est celui qui nous permet de comprendre de la manière la plus profonde l'unité du Père et du Fils. Quand il y a un don commun, il y a une source commune de ce don. Et c'est cette source commune de ce don qui nous fait comprendre la plus grande unité. Pour nous, c'est évident que cette unité, elle est éternelle. choisissons. C'est le Christ qui l'a choisi pour nous. Et donc nous répondons à ce choix. C'est trop facile pour dire, moi, je n'ai pas de dévotion à la Sainte Vierge. C'est pas une question de dévotion, c'est une question de foi. C'est très bien si vous avez de la dévotion. Mais c'est une question de foi. Avant tout, on reçoit Marie parce que Jésus nous la donne. Et parce que Jésus nous l'a donné en surabondance. C'était pas nécessaire. Comme l'Eucharistie, du reste. C'est très extraordinaire de voir que l'alliance du Nouveau Testament, c'est vraiment de l'ordre de la surabondance. Dans les sacrements, que le don de Marie. Il faudrait comprendre comment le mystère de la compassion permet à l'Holocauste du Christ de se réaliser en plénitude, puisque Marie vit le mystère de la croix dans sa foi, dans son espérance et son amour. Et à cause de la foi, l'intelligence de Marie peut être totalement offerte au Père. Marie, à la croix, ne comprend rien de ce qui se passe dans son cœur de mère. Sa foi à la volonté du Père. Elle ne cherche pas à comprendre. Si elle avait cherché à comprendre, elle aurait été dans une sorte de drame. Le mystère de l'Annonciation dit que Jésus doit régner éternellement sur la maison de Jacob. Et voilà qu'à la croix, il est rejeté de la maison de Jacob. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre le message de l'ange, contradiction apparente, entre le message de l'ange et ce qui se réalise à la croix. Vous savez très bien, quand on est en face d'une sorte de contradiction apparente, on ne sait plus quoi faire. On est désarçonné. Et c'est à ce moment-là qu'il faut une exigence nouvelle d'un dépassement, d'aller plus loin, en adhérant à la volonté du Père, qui est une volonté d'amour, sans rien comprendre. Dans notre vie chrétienne, il y a toujours des moments où on se trouve dans cette situation, puisque nous sommes nés de la croix. Voyez, regardez l'annonce énigmatique dans le sacrifice qu'Abraham doit faire de son petit Isaac. C'est contradictoire, selon les apparences. Puisque Isaac était donné comme le fils de la promesse. Et voilà que le fils de la promesse adultes à cause du sabbat. Pour disparaître aux yeux des hommes. Et le mystère de la résurrection se réalise dans le sépulcre. Vous voyez, c'est toujours très important pour nous de regarder tous les détails de la mort de Jésus, ce dernier moment de son pèlerinage sur la terre, jusqu'au sépulcre, pour comprendre le terme du pèlerinage de l'Église sur la terre.
Sí.
endroit où on nous montre Jésus ressuscité, que Jean a vu dans sa vision de Patmos. C'est très important de comprendre que la résurrection du Christ se réalise dans le sépulcre. C'est bien évident. Il n'y a pas eu de témoin humain pour le premier moment de la résurrection. Le premier signe, c'est la pierre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a dû être assez affolant pour les gardes, cette grosse pierre qui s'est mise à rouler. Cette pierre sur laquelle il y avait les seaux pour que personne n'y touche. La pierre a roulé. La première chose que Marie Magdala voit en allant de bon matin, espérant être la première, désireuse être la première, pour retrouver le cadavre de Jésus et l'embaumer. Parce que ce que Nicodème avait fait avec Joseph d'Arimathie, ça avait été beaucoup trop vite. Vous savez, les femmes trouvent toujours que les hommes vont trop vite dans la liturgie, n'est-ce pas ? Toujours. Si elles étaient prêtres, ça ne se passerait pas comme ça. Il y aurait une autre liturgie. Et c'est vrai, c'est toujours un peu comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Pour Marie de Magdala, ça a dû être affolant. Ce dernier moment, elle qui aimait tant Jésus, qu'elle aimait passionnément, de voir que ce sont des hommes qui enveloppent le cadavre du Christ, qui le mettent dans le linceul, après avoir embaumé, selon les rites habituels, mais avec une rapidité un peu plus grande, parce que le sabbat arrivait. La première chose que Marie Magdala voit, la pierre roulée. Elle est presque devenue folle. Là, je crois. Parce que pendant les 3 jours, vous voyez, Marie Magdala n'avait pensé qu'à une seule chose. seule roulée, la forme du corps. C'est très impressionnant, ça. Et Jean, immédiatement, en voyant le linceul rouler, croit en la résurrection. Vous voyez, c'est quand même très impressionnant de retrouver le linceul. Parce que nous croyons bien que c'est le linceul de Turin, que c'est le vrai. Et toutes ces discussions qui sont autour sont d'autant plus intéressantes. Parce qu'on voit le prix que même des savants attachent à ce linceul. Vous voyez, ça a été le signe pour Jean du mystère de la résurrection. Et ça demeure pour nous dans cette fin du XXe siècle, dans cette attente du retour du Christ, le signe, le seul signe. Nous n'avons pas de photo du Christ. Hein. Le Christ est arrivé avant que la photographie soit inventée. Exactement comme pour les cassettes. Pour que n'ayant pas de photo de Jésus, la seule photo, c'est au-dedans du cœur. C'est dans l'amour. mystère de la résurrection. Il a dû avoir au plus intime du cœur de Jean à ce moment-là une grande lumière divine de la présence de Jésus. Il ne nous le dit pas. Il n'a pas à nous le dire. Il n'a qu'à rappeler le signe. Et le signe n'a de valeur que si intérieurement on le comprend. Il a dû avoir cette présence de Jésus ressuscité, glorifié au plus intime de son cœur. Ce qui est sûr, c'est que Marie Magdala, Jean, Pierre et tous les autres apôtres ont perdu du temps. Jésus était déjà ressuscité et ne vivait pas de sa résurrection. La seule qui n'a pas perdu de temps, c'est Marie. Alors, que peut-on dire de ce mystère de la résurrection du Christ? La mort, séparation de l'âme et du corps. Et dans le mystère du Verbe devenu chair, la mort s'est réalisée en Dieu. Autrement dit, l'âme séparée du Christ continue de subsister dans le Verbe. Et le cadavre du Christ subsiste dans le Verbe de Dieu. C'est donc dans le Verbe de Dieu qu'est vécue la séparation de l'âme et du corps. Et c'est dans le Verbe de Dieu que le mystère de la résurrection va se réaliser. L'âme glorieuse du Christ, pleinement glorieuse, va assumer son corps. L'informer et le glorifier. Le corps glorieux du Christ va connaître à ce moment-là la gloire. C'est-à-dire que le corps du Christ devient comme l'ostensoire de son amour, devient comme la manifestation de son amour. Jésus ressuscite en beauté. Ça, c'est la grande vision de saint Augustin. Toute la création, c'est pour la bonté. Valde bonum. Tout est très bon. Et la résurrection du corps du Christ, c'est une résurrection en beauté. Oui, c'est l'art de l'Esprit Saint. Un art d'amour, la beauté éclatante du corps glorieux du Christ, une beauté que notre regard ne peut pas atteindre, parce que notre œil est incapable de voir la gloire du Christ. Notre œil est adapté à la lumière du soleil. La gloire du Christ, nous ne pouvons pas ni la toucher, ni la voir. Seule la foi. Dans la foi, je touche la blessure glorieuse du cœur du Christ. Dans la foi, mon intelligence, transformée, surnaturalisée par la foi, adhère au mystère de la résurrection. Vous savez bien, cette parole si forte, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et c'est vrai. Toute ma foi repose dans le mystère de la résurrection, lié à la croix. Donc à la grande victoire de l'amour du Christ sur la mort. Sur le péché, sur la tristesse. Et si le Christ est ressuscité, nous sommes dans notre foi au Christ ressuscité, nous sommes avec lui des victorieux. nous sommes liés au Christ glorifié, et nous sommes en lui déjà, en promesse, glorifiés. Tout le mystère de la résurrection reste un mystère de foi. Le corps glorieux du Christ est un corps qui connaît une splendeur unique. Les pères de l'Église prennent ces expressions pour exprimer la gloire du corps du Christ. Aurum et vitrum, l'or et le vitrail. L'or pour montrer que cette résurrection, c'est la victoire de l'amour. L'or exprime toujours l'amour. Et le vitrail pour montrer que toute la lumière vient de l'intérieur. Un tableau doit l'éclairer de l'extérieur. Éclairé de l'intérieur. C'est pour ça qu'il a toujours une qualité tout à fait spéciale. Et le corps du Christ est éclairé de l'intérieur. Il est lui-même toute la lumière de la Jérusalem céleste, comme dit le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il est la lumière pour chacun d'entre nous. Toutes les apparitions que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean à partir du chapitre 20. Toutes les apparitions sont une pédagogie divine pour nous conduire au mystère de la résurrection. Étant donné la difficulté pour nous de croire en la résurrection, alors toutes les apparitions, et je crois que les apparitions du Christ après la résurrection nous aident à comprendre les apparitions de Marie. Les apparitions du Christ sont tout entières tournées vers le mystère de la résurrection du Christ pour que nous puissions y adhérer pleinement. Et les apparitions de Marie actuelles qui se multiplient, c'est vrai. Regardez, c'est étonnant, même si de fait, l'Église se tait, ne dit rien, le peuple de Dieu est pour. Je sais bien parce qu'il est avide de choses extraordinaires, mais il y a quand même quelque chose de curieux. Toutes les apparitions de la Très Sainte Vierge annoncent le retour du Christ. Comme Marie a préparé la venue, la première venue. Marie prépare la nouvelle venue. Et c'est pour ça qu'il serait très intéressant de faire, ce serait une session particulière de théologie, je vous y recommande beaucoup. Le chemin de croix à la Salette, on le faisait souvent, c'est quelque chose de très grand. Ce chemin de croix à travers la montagne, et on arrivait à Paris. Et toujours le petit signe, la première fois que j'étais à la Salette, ça m'a beaucoup impressionné. Il y avait une sécheresse effrayante. Toutes les sources étaient sèches. On arrive tout en haut, l'eau coule, la petite source. C'est curieux que Marie est toujours liée à l'eau et à la source. Et on comprend très bien, parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Dans la lune, il n'y a pas d'eau, pas de vie. On aurait été heureux de trouver de la vie dans la lune, voyez. Nos petits frères lunaires, hein, ça aurait été très... très intéressant. Ça aurait été très curieux. Ça aurait eu une vision très particulière. Non, pas de vie. L'eau, c'est Marie. Le signe symbolise Marie. C'est important de voir les apparitions du Christ liées au mystère de la résurrection. Les apparitions de Marie quand elle se multiplie comme maintenant, liée au mystère du retour du Christ. Et c'est surtout les larmes de Marie à la Salette, au Japon. Et les larmes de Marie au Japon, attestées par un évêque. Mais c'est un évêque japonais. Attestées par un évêque. Session.